Venez regarder vos montres à gousset et autres téléphones portables, il est 20h. Excellente soirée sur Radio G, bonsoir, bonsoir, c'est Quasar on the air, l'émission de Quasar, le centre LGBTI+, d'Angers, LGBTI+, acronyme pour lesbien, gay, bi, trans, intersexe et les autres identités. Quasar, c'est ce centre LGBTI+, d'Angers du Maine-et-Loire. Et ça tombe bien, puisque avec Radio G, maintenant avec la diffusion RNT, eh bien vous nous captez d'un peu plus loin encore qu'avant par les seules voies hertziennes. Et FM, d'ailleurs. Bien, alors cette quinzaine, comment s'est-elle déroulée pour vous? Bien, j'espère, et pendant ce temps-là, eh bien, les femmes iraniennes continuent à braver, femmes et garçons iraniens continuent à défier le régime, et semblerait-il gagneraient quelques batailles, mais restons éminemment prudents. Et puis pendant ce temps-là, ben, la Coupe du Monde se déroule, on oublie un peu tous les ouvriers décédés, on se souvient de cet Italien brave comme il en faut pour aller sur le terrain et braver les interdits, et puis toute une actualité LGBTI en France et dans le monde. Alors, puisqu'on parle d'actualité, eh bien justement, nous allons nous arrêter à l'actualité du retour dans la région des Pays de la Loire de l'ENIPS. Nous aurons Éric Maniscalco tout à l'heure en direct qui nous expliquera ce retour de l'ENIPS et puis ce travail de prévention, de lutte contre le VIH, les hépatites, les IST dans les commerces LGBTI+. Nous aurons Julien Pontès aussi qui est porte-parole de Rouge Direct. Et alors là, plein foot, plein cadre, plein but avec Rouge Direct. Et puis, aux alentours de 20h47, nous appellerons Samuel Tarsi, qui est le président d'Execo, notre homologue sur Reims. Vous voyez, on va faire Rennes, Paris et puis Reims, tout un programme finalement. On ouvre toujours ce Quasar on the air avec possiblement eh bien, les actualités et les prochains temps de Quasar. Alors, on se le dit tout de suite, on va en profiter maintenant pour se dire que, vous voyez, on peut être partout, on a une sorte de don d'ubiquité, puisque à ce moment même, dans les locaux de Quasar, au 15 rue de Jérusalem, eh bien, il y a un temps transparent, rencontre avec les familles et les proches des personnes transgenres, agenres et non-binaires. Les permanences de Quasar ont lieu tous les samedis de 17h à 19h. Alors les dates, les 10, 18, 24 et 31 décembre, j'insiste bien, 24 et 31 décembre, nous serons bien ouverts pour les âmes perdues, les âmes retrouvées, tous ceux et toutes celles qui voudront bien venir nous rendre visite et puis nous questionner. Les permanences, 15 rue de Jérusalem, c'est dans le quartier Banchet de Croix, entre la rue des Banchets et le boulevard des Deux Croix, près du cimetière de l'Est. À noter sur l'agenda également en semaine, lundi 12 décembre prochain, c'est la troisième réunion de préparation de la Pride 2023. Ça se passera à 19h. Rendez-vous devant la Bourse du Travail dans les locaux de la CGT lundi 12. Jeudi 15, une formation interne de la Trans Team Inter pour toutes les personnes qui l'ont déjà suivie et qui voudraient à nouveau la suivre. C'est toute la sensibilisation au vocabulaire, à la situation des personnes transgenres, agenres et non-binaires, voire intersexes. Donc vous vous inscrivez pour le jeudi 15 décembre. Samedi 17, en plus de la permanence, oui c'est pas le tout le 18, hein, comme je vous ai dit, c'est le 17. Eh bien, le 17, il y aura ce samedi-là un transat à partir de 15h. Transat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le temps d'échange et de parole non mixte pour les personnes transgenres, agenres et non binaires dans les locaux de Quasar. Pour y participer, c'est très simple. Vous vous inscrivez sur le mail team-trans-inter@quasar.fr. samedi 17 toujours, à partir de 15h, c'est l'autre permanence du jour dans les mêmes locaux de Quasar du pôle. 15-25, vous avez entre 15 et 25, vous vous posez des tas de questions, vous voulez rencontrer des copains, des copines, et bien vous venez à la permanence pour les 15-25 avec Alex. Le jeudi 22 décembre, c'est un nouveau numéro de Quasar en Zière qui nous attendra. Nous serons à quelques jours de Noël et on fêtera ça tout à fait tranquillement et dignement. Et puis, lundi 26 décembre, vous notez sur vos tablettes la réunion du conseil d'administration, ce qu'on appelle le conseil. Et vous, adhérents et adhérentes, eh bien, vous êtes tout à fait en possibilité d'y assister si cela vous chante. Et puis alors, nous allons faire un grand bond vers 2023 pour que vous puissiez noter un rendez-vous important pour les personnes qui voudraient s'y inscrire et y participer. Il n'y a aucune difficulté. C'est le vendredi 27 janvier, une formation proposée par la Team Trans Inter en collaboration avec le Centre LGBTI+ de Normandie, avec Elliot qui viendra nous rendre visite et vous proposer une formation pour l'accueil et puis l'accueil en plus de savoir comment se comporter, être et comment faire avec les personnes neuro-atypiques, dont les personnes vivant avec une forme d'autisme, enfin en tout cas tous les champs d'autisme possibles, comment mieux les accueillir, comment être attentif ou attentive aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer au quotidien. C'est tout l'enjeu de cette formation qui aura donc lieu dans les locaux de Quasar le vendredi 27 janvier prochain. À noter, et pour y participer, évidemment, il faut s'y inscrire. Et on espère bien en tout cas. Allez, voici Pink.
I think it might rain today. Ash on the ground. Took all the heat we could take. And then burn it down. You can call me irrelevant, insignificant. You can try to make me small. I'll be your heretic, you fucking hypocrite. I won't think of you at all. Sticks and stones and all that shit. Does Jesus love the ignorant? I like to think he'd gladly take us all. The kids are not alright. None of us are right. I'm tired, but I won't sleep tonight. 'Cause I still feel alive. Now
I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
La belle Pink qui est irrévélante, mais finalement pas tant hors sujet que cela.
Radio G, 101.5 FM.
Pour ce sixième numéro de Quasar on the Air de l'année 2022-2023, l'année radiophonique, nous démarrons cette émission avec de la prévention et nous allons parler commerce, commerce LGBTI. Et nous allons pour cela rejoindre au téléphone, et il nous fait la joie d'être présent avec nous, Eric Maniscalco. Bonjour Eric.
Bonjour Stéphane.
Alors, on va te présenter, tu es le délégué régional de l'ENIPS. Alors, comment est-ce qu'on l'écrit et qu'est-ce que l'ENIPS très exactement ?
Alors, l'ENIPS, ça veut dire l'équipe nationale d'intervention, prévention et santé. Alors, le E à la fin voulait dire entreprise, parce qu'on travaillait spécifiquement dans les commerces LGBT jusqu'à présent, ce qui n'est plus tout à fait vrai. Enfin, on travaille toujours dans les établissements et avec les établissements LGBT+, mais aussi on travaille beaucoup avec les Cégides et les associations. Donc, le E a existe toujours dans l'acronyme, mais dans la définition du mot ENIPS a un peu disparu. Il fait référence aussi à notre ancien nom, puisque probablement que les plus anciens se souviendront du SNEG, le syndicat national des entreprises gays, association qui a été créée en 90 et dont est issue l'ENIPS, puisqu'il y a presque 10 ans maintenant, le SNEG est devenu ENIPS et a un petit peu modifié ses compétences et son champ d'action.
C'est ça. Alors je disais en préambule de l'émission que l'ENIPS revient. Alors ça veut dire quoi très exactement ? L'ENIPS et ou le SNEG précédemment était très présent, puis vous vous êtes un petit peu écarté des Pays de la Loire et puis maintenant vous revenez et c'est une bonne nouvelle finalement.
Alors, disons qu'on avait ralenti un petit peu notre présence dans les Pays de la Loire depuis 2-3 ans à peu près. L'épidémie de Covid n'a pas facilité le retour. Alors, on a toujours été présent auprès des établissements, mais de façon plus ponctuelle. Ça veut dire, quand je dis présent, c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, on visitait les établissements tous les 2 mois à peu près, et c'est là qu'on a espacé un petit peu nos visites dans la région, et surtout, on s'est désengagé de toutes les choses auxquelles on pouvait plus répondre. Notamment le travail avec les associations et les structures style Cégide, centre de dépistage, pour la simple raison, c'est un problème de ressources humaines, tout simplement. Là, on vient de renforcer l'équipe. Alors, il faut savoir, oui, je vais préciser quand même, je suis le délégué régional des Pays de la Loire, mais également de la région Bretagne.
Oui, qui fait une belle région, quoi. Une belle
voilà,
région.
Voilà. Exactement. Il faut savoir que quand même, quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'avais en plus la basse Normandie et le Poitou. Donc, je ne me plains pas, on a quand même réduit la surface d'action. Mais nous, en tout cas pour la délégation Ouest, ce sont ces deux régions qu'on gère. Et donc, on a recruté il y a un mois à peu près un chargé de prévention sur le secteur, ce qui fait que ça va me libérer moi du temps pour réinvestir les Pays de la Loire et être beaucoup plus présent, et notamment sur les marches des fiertés, où on était absent depuis 2 ans, et où on va revenir en 2023.
Alors, être présent dans les établissements LGBT, donc par exemple à Angers, ça peut être le sauna, le steamer, ou le bar L'Entre-deux, rue Lyonnaise, ça veut dire quoi très concrètement ? Tu passes, tu prends la température, tu déposes des prospectus, des informations, c'est quoi exactement ton accès ?
Oui, alors... En fait, c'est une présence quotidienne, on va dire, via le présentoir qui est présent dans ces établissements-là. Vous l'avez peut-être repéré si vous allez au sauna ou si vous allez à l'entre-deux. Il y a un présentoir avec de la documentation, des documents de prévention. Donc ça, c'est au quotidien. Ce présentoir est toujours présent. Et nous, notre travail, c'est de le réalimenter, d'éditer aussi beaucoup de documents. C'est vrai que depuis 2 ans, on a moins édité de documents. À cause du Covid, notamment pendant 1 an, ces établissements ont été pour certains fermés ou fortement impactés par des fermetures liées à l'épidémie. Donc ça, c'est on appelle ça nos bruits de fond. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la prévention dans les établissements, qu'on soit présent physiquement ou pas, il y a toujours. Mais c'est effectivement le passage dans les établissements, il sert aussi à continuer à mobiliser les exploitants de ces lieux, les former, puisqu'on a un travail de formation. On forme les propriétaires d'établissements aux questions de santé sexuelle, donc classiquement VIH, IST, mais aussi la santé des femmes, par exemple, la formation, on fait des formations sur le chemsex, par exemple. Donc ça fait partie des choses qu'on fait et qu'on a un peu moins fait depuis 2 ans. Et puis surtout, on va réinvestir le tissu associatif, parce que je trouve que c'est important de travailler avec les associations qui existent pour monter des projets, pour renforcer aussi des temps comme les marches des fiertés. Sans association, sans structure, voilà, c'est plus compliqué. Donc c'est ça notre réinvestissement des Pays de la Loire, qui a commencé hein, déjà il y a quelques mois, mais qui va s'intensifier en 2023, grâce justement au fait que notre équipe s'étoffe un petit peu. Alors je dis notre équipe, on est deux hein, sur la région ouest. On n'est pas une autre des régions, soit les Pays de la Loire ou la Bretagne, fortement dotée en salariés, parce qu'on est aussi des régions où l'épidémie de VIH notamment est plus faible. On a des équipes beaucoup plus fortes dans des régions où le VIH est fortement présent, évidemment Paris, mais la région Rhône-Alpes par exemple, la région PACA, on a des équipes de 6-7 personnes dans ces secteurs-là. En fait, on module en fonction de l'épidémiologie du VIH.
Oui, ce qui paraît tout à fait entendable. Alors c'est pour ça, c'est dans ce cadre-là, le fait de ce que tu décrivais, le fait de revenir vers les associations qui nous avaient paru important, et donc ce qui nous vaut le fait de t'entendre aujourd'hui dans l'émission. Concrètement, la situation des établissements LGBTI+, quelle est-elle dans la région? Je pense à Nantes, au Mans, à Laval et à Nantes, je l'ai dit, puis à éventuellement...
En Vendée, éventuellement.
La Vendée, aussi. Oui.
Mm-hmm. Oui. Alors, la situation est beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'a été. D'abord parce que, personne n'a oublié l'épidémie de Covid qui a quand même fortement impacté les établissements. Et puis, probablement parce qu'il y a un changement aussi.
D'habitude.
D'habitude, oui. D'abord, on sait que beaucoup de clients ne sont pas revenus vers ces établissements.
Exact.
Et au même titre que beaucoup de clients ne sont pas retournés dans les cinémas, par exemple, parce que pendant cette période, les gens ont pris d'autres habitudes, ont appris à se rencontrer autrement. Alors, est-ce que c'est mieux? Je pense notamment aux applications, ou moins bien, j'ai ma petite idée, mais chacun a modifié sa façon de se sociabiliser, et donc les établissements ont fortement été impactés par ces changements. Il y a aussi une nouvelle génération dans la population LGBT qui arrive et qui n'a pas forcément envie d'être dans des lieux clairement identifiés.
Oui.
Donc il y a aussi ça. Alors peut-être que dans 10 ou 20 ans, quand ils auront 30, 40, 50 ans, ils trouveront que c'est bien si des établissements existent toujours. Mais pour l'instant, c'est vrai que cette population, on la voit peu dans les établissements. Donc oui, c'est compliqué. Et puis de toute façon, on voit bien que le nombre d'établissements a fortement chuté. Ce qui a fait chuter, par exemple, le magazine WAG, que vous connaissez probablement, qui était distribué dans les établissements et qui a disparu ces dernières semaines parce que, à partir du moment où il n'y a plus un marché publicitaire suffisant, il est difficile de maintenir une activité de presse, ce qui est évidemment dommage. Donc oui, non, ça, c'est compliqué. En Vendée, par exemple, vous n'avez plus d'établissement clairement LGBT.
Oui, c'est fini. Fait partie de cette région sinistrée de ce point de vue.
Oui. Et moi, je vois, ça fait 20 ans, hein, 22 ans même, que je suis sur ce secteur, je vois bien que ça se réduit d'année en année. Alors, il y a des gens qui résistent. Hein, à Angers, vous avez l'entre-deux qui résiste, vous avez le steamer qui résiste. Mais vous voyez, il y avait deux sonars à Angers.
Il y en avait deux, voilà, c'est ça, le Maine a fermé. Bon, voilà, ça fait plus de 2 ans maintenant, effectivement.
Ouais. Mm-hmm. Donc, on va quand même vers moins d'établissements qu'avant. Mais bon, voilà, peut-être que les gens vont plus dans les associations. Il est possible que les gens, en tout cas, se consomment autrement.
Et pour la prévention, les chiffres qui sont tombés pour le 1er décembre, une remontée de dépistage, mais pas encore au niveau d'avant Covid, des 5000 cas, on n'arrive toujours pas à faire baisser, même s'il y a une toute petite tendance à la baisse dans le public LGBT, je parle en découverte de séropositivité, c'est tout de même pas encore satisfaisant, hein, loin s'en faut.
Non, d'autant qu'on pensait effectivement que la PrEP, qui donc est ce traitement préventif qui permet d'éviter une contamination par le VIH, on pensait que la PrEP commencerait à donner des résultats. Et pour l'instant, c'est pas évident du tout. Alors, il y a probablement des résultats. Moi, j'ai pas eu le temps d'étudier les chiffres en détail. Et probablement que dans des régions où la PrEP est très très diffusée, il y a peut-être des résultats visibles. C'est vrai que dans nos régions Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, on est encore sur des chiffres de PrEP assez faibles finalement.
Oui, mais il y a peut-être un problème justement d'accessibilité à la PrEP au traitement, me semble-t-il.
Alors c'est possible, c'est pour ça que nous par exemple on a développé à Paris ou en Normandie un circuit court PrEP, c'est-à-dire que on aide les gens à aller accéder plus vite à la PrEP. Ne serait-ce qu'en travaillant avec des médecins qui nous fournissent des ordonnances pour aller faire des dépistages en laboratoire, on gagne déjà une étape, donc on gagne déjà du temps, et de ce fait, la personne revient directement avec ses résultats et peut être immédiatement mise sous PrEP. Alors ça, on le fait pas encore, enfin, on n'a pas réussi à établir, parce que évidemment, ça se fait soit avec des CGT, soit des médecins traitants. On l'a pas fait dans les Pays de la Loire, dans l'Ouest, donc là, ça n'a pas été mis en place. Mais c'est des pistes qui pourraient être travaillées. Mais effectivement, aujourd'hui, la PrEP repose essentiellement sur les centres de dépistage, les CGT. Les médecins traitants sont encore peu ou mal formés, enfin c'est peu formés, on va dire. Peu nombreux, en tout cas, à avoir été formés. Et donc, on le voit régulièrement. On met en place des permanences, nous, sur les sites de rencontres, notamment, et les applications de rencontre. Et le premier point, effectivement, Stéphane, tu as raison, c'est l'accessibilité à la PrEP. Les gens savent, soit ils ne savent pas où l'obtenir, soit il y a des délais de rendez-vous pas possibles, quoi. Voilà. Sur des gens qui prennent des risques au quotidien.
La PrEP, et puis la RDR, et puis toutes ces pratiques-là. Dans les 30 secondes qui nous restent, finalement, la priorité des priorités pour toi, pour l'ENIPS, dans les mois qui viennent?
C'est l'accès à la PrEP, c'est de permettre un accès plus facile à la PrEP et à l'information, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la PrEP aussi.
Hein. Oui. Et puis la jeune génération aussi, la jeune génération qui découvre.
Oui, et puis c'est évidemment favoriser le dépistage, puisque quand on connaît sa sérologie, on peut être traité vite, rapidement, et ne plus lui transmettre le VIH. Et PrEP et TASP, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, sont deux éléments très importants pour...
le traitement aussi tôt que possible. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Eric. Très belle soirée.
Je t'en prie, Stéphane. Merci d'avoir pensé à l'ENIPS.
Mais non, c'est normal.
Pour l'émission.
Depuis tant d'années.
C'est vrai.
Allez, très bonne soirée, Eric, du côté de Rennes.
Merci beaucoup.
Nos jeunes années, nous trémoussions, nous étions jeunes et belles. Patrick Russian, Forget Me Nots, 20h24, Quasar on the Air, vous ne bougez pas, 101.5. Was it the simple thing you made me so brave? Année funk avec la belle Patrice.
Radio G. www.radio-g.fr.
Quasar Anzière, deuxième invité, nous allons être en plein dans l'actualité. Nous accueillons Julien Pontès qui est en direct avec nous sur Radio G. Bonsoir Julien.
Oui, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
Alors, nous avons décidé de parler, une fois n'est pas coutume, de football et surtout de Coupe du Monde et d'homophobie dans le monde du football en France et à l'étranger. Mais actualité oblige, nous nous tournons vers la Coupe du Monde de football avec toi, Julien. Tu es le porte-parole du collectif Rouge Direct. Alors déjà, premier point, Rouge Direct, c'est quoi ? C'est un collectif, si j'ai bien compris, et ça existe depuis quand?
Alors oui, le collectif Rouge Direct, nous sommes un collectif de lanceurs d'alerte contre l'homophobie dans le football. On s'est créé en 2016, il y a 6 ans maintenant, et on dénonce tous les actes homophobes, les propos homophobes, les chants homophobes qui sont malheureusement systématiques dans les stades de football, en particulier dans le championnat de France.
Et de fait, vous êtes vous-même des pratiquants et des aficionados du football, ou c'est parce que c'est quelque chose qui vous intéresse en tant que lanceur d'alerte uniquement ?
Alors en fait, il y a un peu de tout dans le collectif. On a des joueurs de foot amateurs, on a des amateurs de foot, et puis on a aussi des amateurs de football, des gens qui regardent les matchs à la télé ou dans les stades et qui ne supportent pas d'entendre pédé, enculé quand on assiste à un événement sportif. Et voilà, et on est aussi constitué de pas mal d'hétéros qui sont des compagnons de route dans la lutte contre l'homophobie. C'est important de le signaler parce que l'homophobie, c'est pas que l'affaire des LGBT, c'est aussi l'affaire de tous ceux qui souhaitent une égalité des droits, qui souhaitent que tout le monde soit respecté. Ça concerne aussi les hétéros, et c'est aussi le collectif Rouge Direct, c'est le reflet en fait de la société.
Tout à fait. Alors, on en arrive directement à un point important qui était une tribune que vous avez initiée, à laquelle Quasar a apporté sa signature juste avant l'ouverture de la Coupe du Monde. Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agissait très exactement dans le propos ?
Oui, en fait, la Coupe du Monde au Qatar, ça fait 12 ans hein, qu'on sait que ça aura lieu dans un pays parmi les plus répressifs contre les LGBT. Donc nous, ça fait des mois qu'on prépare cet événement. Et comme on voyait rien venir de la part de la Fédération française de football ou même du monde LGBT, on a pris effectivement l'initiative de prendre les contacts avec les principales assos LGBT, hein, comme Stop Homophobie, SOS Homophobie, la FSGL, et puis aussi des associations de défense des droits de l'homme comme Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, des avocats qui sont aussi engagés comme Caroline Mécari, bien sûr. Mmh. Et puis, on a aussi eu le soutien de Jean-Baptiste Marteau, hein, qui est le journaliste qui présente le 20h de France 2. Et puis, on a aussi souhaité contacter un maximum de centres LGBT comme le vôtre, hein, comme Quasar, parce que le football, ça concerne 60 millions de Français et puis des milliards de gens dans le monde. Et ça nous intéressait aussi d'avoir des soutiens de la France entière dans cette tribune qui est co-signée donc aussi par Fierté Pas-de-Calais, la Pride de Marseille, par vous-même, et on vous remercie encore, parce que voilà, on voulait donner une dimension nationale à la résistance en fait contre les LGBT-phobies qui sont très très banalisées par cet événement mondial au Qatar.
Alors, on rappelle quand même que pour la Coupe du Monde dont on parle, il y a effectivement la question des LGBT, il y a la question du travail et des personnes qui sont décédées dans des conditions épouvantables de travail pour construire les infrastructures. Mais si on s'arrête exclusivement à ce problème de la lutte contre l'homophobie et de la répression dans le Qatar, la tribune, le gouvernement a bougé, la ministre a tendu une oreille, ou ça a été vraiment oreille morte?
Ça a été très compliqué au niveau de la communication de la FIFA, qui est l'organisme mondial qui organise la Coupe du Monde de football. Et au niveau de la France, ça a été très problématique. Les déclarations de la ministre des Sports, ça a été un coup dans le zig, un coup dans le zag. Oui, les personnes LGBT pourront y aller en sécurité, mais enfin bon, il faut quand même rester discret, il faut raser un peu les murs, il faut pas s'embrasser dans la rue. Bon, voilà, soyez sages au Qatar. On a même eu quand même le capitaine de l'équipe de France de football, Hugo Lloris, qui a pris la parole pour dire qu'il fallait respecter la culture du pays. Alors nous, on a réagi très fortement parce que pour nous, la persécution des LGBT et la peine de mort que risquent les LGBT au Qatar, c'est pas une culture, vous voyez, c'est une violation des droits de l'homme.
C'est le moindre qu'on puisse dire, oui. Mmh.
Ouais, mais malheureusement, on l'entend pas assez, et puis la France ne porte pas assez fortement la question des droits de l'homme et des droits des LGBT à l'étranger. Là, on a eu en plein milieu de la coupe, enfin au début de la Coupe du Monde, la nomination d'un ambassadeur des droits LGBT qui est censé défendre les droits LGBT partout dans le monde, et on l'entend pas parler du Qatar. C'est quand même très problématique pour nous. Et donc voilà, il y a une hésitation de la part du gouvernement. On a une fédération française de football avec un président qui s'appelle Noël Le Graët, qui est dans la
dossier
voilà
rouge, dossier rouge. Sortons le dossier
rouge,
oui.
Parce que il faut quand même en parler. La fédération française de football, c'est 2 millions de licenciés en France, dont la moitié de jeunes, et on a un président notoirement homophobe.
On va y revenir sur le cas de la France, mais restons sur le Qatar. Il y a la déclaration de Hugo Lloris, vous réagissez. Par contre, il y a un Griezmann qui fait certaines déclarations lui aussi de son côté.
Ouais, Antoine Griezmann, il a pris la parole, mais c'était vraiment le service minimum. C'est le seul sur les 25 joueurs de l'équipe de France, c'est le seul qui a pris la parole pour dire quoi ? Pour dire qu'il respectait les LGBT partout dans le monde. C'est quand même c'est gentil de sa part de nous respecter, mais enfin c'est un petit peu plus grave que ça, la situation, parce que on a une dizaine de pays dans le monde où la peine de mort est réservée aux gays. On a à peu près 80 pays où l'homosexualité est criminalisée dans le monde. Donc la France aurait dû être à la hauteur de l'événement. Il y a quand même 12 ans qui se sont passés pour être prêt le jour J pour avoir un message clair contre l'homophobie et pour la décriminalisation de l'homophobie. Et là, on a une EFFF et des joueurs de l'équipe de France qui sont totalement pas à la hauteur. Ils veulent pas parler d'homophobie dans le football. L'équipe de France a refusé de s'associer aux 7 fédérations européennes qui voulait porter le brassard One Love en signe de solidarité avec les LGBT, l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, etc. Et ben la France a refusé, comme l'Espagne, de s'associer à ce mouvement de solidarité. Et en fait, ce brassard One Love, il était même pas aux couleurs de la communauté LGBT.
Non, puisque
il était déjà assez nul. Mais même ça, ça ne passe pas. Donc il y a un problème qui est apparu comme ça au grand jour à l'occasion du mondial au Qatar, qui est 7 pays européens qui sont très en avance sur la lutte contre l'homophobie dans le football, et la France avec l'Espagne qui est totalement à la ramasse sur ces questions. Et nous, on le constate depuis des années et des années en France. Nous, on dénonce des chants homophobes qui sont très graves, qui sont systématiques dans les stades de foot. Dans les stades, on entend « il faut tuer CPD de Toulousains, il faut tuer CPD de Marseillais ». On signale, nous, ces chants homophobes à la LICRA, on les signale à la Ligue de foot professionnelle. Et malheureusement, jamais ils ne font l'objet de poursuites devant la justice ou même d'une sanction disciplinaire comme le prévoit le règlement de la Ligue de foot professionnelle. Donc tout ce travail qui n'a pas été fait depuis des années par les instances du foot français, maintenant ça apparaît au grand jour au Qatar avec une équipe de France qui se fout totalement de la situation des LGBT et de la criminalisation de l'homosexualité dans ce pays, le Qatar.
Alors Julien Pontès, et tu es le porte-parole du collectif Rouge Direct, tu es notre invité sur Radio G. Ma question était, finalement, on décrit la situation au Qatar avec une équipe de France qui, comme d'autres pays, ne veut pas avoir ne serait-ce que des gestes symboliques. Pourtant, l'Allemagne a bien eu cette force de caractère de le faire.
Tout à fait. En Allemagne, par exemple, en février 2021, il n'y a pas si longtemps, à la une du journal Elf Freunde, c'est un peu le France Football allemand. Ouais, il y avait 800 professionnels, joueurs professionnels de football, qui avaient signé un appel pour dire « vous pouvez compter sur nous » en direction des LGBT. C'est énorme, 800 footballeurs professionnels qui disent aux LGBT « vous pouvez compter sur nous ». En France, mais il n'y a pas un joueur, il y a zéro coming out, il n'y a pas de prise de position pour l'inclusion des LGBT dans le football. Le contraste est terrible. En Angleterre aussi, par exemple en Angleterre, les chants homophobes sont très durement sanctionnés. Il y a des supporters qui sont identifiés quand ils ont des comportements homophobes et qui sont interdits de stade pendant 3 ans, par exemple. Le club de Brighton, parce que Brighton, c'est quand même la ville où il y a une communauté LGBT très importante, le club de Brighton a interdit de stade à vie. Un supporter qui avait eu des injures homophobes contre les joueurs de Brighton.
Alors, quand on fait tous ces constats, Julien, ma question est, l'enjeu, l'argent, le pouvoir et tout ce que le monde footballistique déplace existe dans tous les pays et c'est à une hauteur à peu près égale. Donc, ce n'est pas un problème de pouvoir, ce n'est pas un problème de revenus, c'est un problème comportemental et personnel des joueurs et des fédérations. On est bien d'accord ?
Oui, on est bien d'accord. Ce qu'il faut, c'est de la sensibilisation auprès des joueurs et puis quelques personnes exemplaires qui prennent la parole. Par exemple, nous, on pense que au niveau des joueurs professionnels et surtout au niveau des joueurs des équipes nationales, il faut qu'il y ait des prises de parole. Par exemple, Thibaut Meunier, c'est un international belge, il est très ferme sur la lutte contre l'homophobie. Il dit, il va même jusqu'à dire, mais ça sert à rien de mettre des pancartes non au racisme, non à l'homophobie dans les stades. C'est pas suffisant, on se fait plaisir, on fait un peu de pinkwashing, mais ce qu'il faut, c'est un travail de fond sur les mentalités, comme tu disais. Là, on a par exemple, je vais prendre un exemple, Karim Benzema. C'est des millions de followers sur les réseaux sociaux. Karim Benzema, par exemple, il refuse de répondre à toutes les questions qui concernent l'homophobie dans le football. Nous, on en est là en France. On est dans une situation catastrophique. Aux États-Unis, par exemple, Barack Obama, il avait pris la peine de saluer le coming out de Robbie Rogers à l'époque, qui était un joueur gay qui a fait son coming out, qui est un joueur de soccer américain. Barack Obama a fait un discours officiel pour saluer Robbie Rogers, le féliciter de son courage, etc. Nous, on n'a aucune prise de parole des joueurs de foot. Tu voulais parler de Noël Le Graët, je ne sais pas à quel moment tu voulais en parler, mais parlons-en maintenant.
Oui, bien sûr.
Noël Le Graët, c'est quelqu'un qui, en 2019, au moment où il y avait des arrêts de match, quand il y avait des comportements homophobes dans les stades, la FIFA avait fait passer une circulaire à toutes les fédérations mondiales pour dire, voilà, maintenant, zéro tolérance contre l'homophobie, on passe aux arrêts de match, dès qu'il y a des comportements homophobes. En 2019, Noël Le Graët a pris la parole pour dire qu'il allait donner des consignes aux arbitres pour ne pas arrêter les matchs en cas d'homophobie. Pour le racisme, il dit oui, mais pas contre l'homophobie.
Oui, bien sûr. Hiérarchie. Alors, dans la discrimination, bien sûr.
Exactement. Mmh. Discriminé parmi les discriminés. Mmh. Alors, Noël Le Graët, là, il dit, il est terrible, il est vraiment terrible. Dans un premier temps, il a dit, non, il n'y aura pas de brassard One Love dans l'équipe de France, parce que moi, je suis les recommandations de la FIFA. La FIFA interdit les brassards One Love, donc moi, je suis les recommandations de la FIFA. Pas de brassard One Love. Et là, il déclare avant-hier dans le Figaro qu'il a été un des leaders au sein de la FIFA pour que personne ne porte le brassard One Love parmi les équipes qui voulaient le porter. Donc on est sur un problème très grave qui est un verrouillage de toute avancée contre l'homophobie dans le football français.
C'est bien une prise de pouvoir en réalité, là, en l'occurrence.
Bah, la FFF est extrêmement puissante, hein, parce qu'on est champion du monde, la FFF est assise sur un tas d'or, hein, avec la vente de maillots, etc. Donc oui, effectivement, il y a un pouvoir économique important, idem pour le Qatar, hein, qui est une puissance économique qui impose ces règles, qui normalise, qui banalise l'homophobie dans le monde entier. Et il y a plein de pays, et nous en France aussi, on est souvent harcelé toute l'année, hein, par des homophobes fouteux. Mais là, maintenant, on nous répond que, Hugo Lloris, il a dit qu'il fallait respecter la culture des pays. Quand on respecte pas les homosexuels dans un pays, faut respecter. Et maintenant, avec les prises de position du football français, c'est une idée qui se diffuse, qui s'ancre très profondément dans les mentalités. Et la ministre des Sports, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit qu'elle va se rendre au Qatar samedi pour soutenir l'équipe de France. Et nous, évidemment, officiellement, on lui a demandé de porter le brassard One Love. C'est quand même le minimum. Les ministres belges, anglais, danois et anglais l'ont porté, le brassard One Love. Il faut aussi avoir... On est la France, on est le pays des droits de l'homme. Il faut aussi avoir... un minimum de résistance et de désobéissance.
On verra bien samedi. Donc, Rouge Direct reste actif sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre le collectif et toujours en pointe sur les questions d'homophobie dans le sport et en l'occurrence dans le football. On se dit bonne soirée et puis au plaisir, à une prochaine.
Avec plaisir. Merci Stéphane.
Au revoir, bonne soirée.
Au revoir.
On change de rayon sportif, mais pourquoi pas. Voici Redcar. Chanteur non binaire, bien connu. Je te vois enfin.
Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. J'ai plongé ma main dans la terre du sentier. Pardonnez-leur, ils ne savent plus où ils vont. Elle m'attendait près du ruisseau pour me parler. Ils meurent en leur âme à la fois autre chose. Ils ont les larmes et les pétales. Je t'ai cherché. Oh, 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 oh.
connais en mille, entre mille. Red Car, je te vois enfin.
Radio G. 101.5 FM.
Dernier invité de ce Quasar on the Air, nous prenons la direction de Reims une fois n'est pas coutume et c'est un plaisir d'accueillir eh bien, nos amis de Ex Aequo, la personne de Samuel Tarsi. Bonsoir Samuel.
Bonsoir Stéphane.
Alors on est heureux de vous accueillir parce que Ex Aequo, évidemment on se connaît entre nous mais on n'a pas souvent l'occasion de discuter via les ondes, alors on en profite largement ce soir. C'est aussi notre petit tour d'horizon des autres centres LGBTI+ d'Angers, de France qui existent, et il y en a un petit paquet quand même, une trentaine. Et on en profite ce soir pour faire connaissance en pays de Champagne avec Ex Aequo. Alors Ex Aequo, ce nom, il vient d'où exactement, de quelle histoire, et Ex Aequo a été créé en quelle année à peu près?
Alors Ex Aequo a été créé en 1996, donc on a même été, pour la petite histoire, la déclaration a été enregistrée le 14 février 1996, donc c'est un beau symbole de l'amour, hein. Voilà, fallait le dire. Alors Ex Aequo, le terme est venu dans une recherche de vouloir faire reconnaître l'égalité de droit entre les personnes à l'époque gays, hein, parce que ça a été créé par des hommes homosexuels qui avaient été victimes d'homophobie et qui s'étaient rassemblés pour faire défendre leurs droits et faire entendre leur voix. Voilà.
D'accord. Et on se souvient également qu'en ce qui concerne Ex Aequo, c'était le nom d'un magazine LGBT gratuit, diffusé sur Paris, mais un petit peu sur toute la France. Et il y avait une collusion de noms, mais finalement, l'association, elle, est restée. Le magazine, lui, a disparu il y a plusieurs années de cela. Et je m'en rappelle parce que je les portais pour les ramener de Paris à Angers. C'était assez lourd, voyez-vous.
Mais bon. Et je veux bien le croire. Alors, pour Ex Aequo, aujourd'hui, enfin, il y a des jeux de mots, hein, sur les échos. Qui sont aussi des journaux gratuits qui sont diffusés par des institutions et que nous recevons dans nos boîtes mail régulièrement. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais c'est le mien en tout cas.
Voilà, tout à fait. Alors aujourd'hui, donc 26 ans d'existence, comment est-ce que vous êtes organisé et vous avez quoi? Vous vous êtes attribué quoi comme mission globalement avec des groupes, je suppose, d'activités?
Oui, c'est ça. Alors, comme de nombreux centres LGBT, hein, notre fer de lance, c'est la lutte contre les discriminations. Alors, en première intention, les LGBT-phobies, mais on s'associe volontiers à toute forme de lutte contre les discriminations. Pour cela, on travaille avec plein d'amis, hein, comme la LICRA ou comme encore les associations féministes locales ou le planning familial, et bien sûr les amis de AIDS. Donc ça, c'est d'une manière globale. On travaille sur la prévention, donc on a un groupe sur la prévention, on a un groupe sur les interventions au milieu scolaire qu'on a élargi parce qu'on intervient maintenant de plus en plus auprès de professionnels accueillants.
Bien sûr.
Alors accueillants du public quand même, donc les maisons de quartier, Pôle emploi, enfin voilà, ce type de public. Et puis nous avons un groupe dédié au questionnement d'identité de genre, donc on a nommé Genre en question, un groupe polyamour pour les polyamoureux qui cherchent davantage d'informations et d'échanges, un groupe bienveillant. Et puis on a aussi l'accueil de personnes réfugiées, on a aussi ce qu'on appelle la vie du local, hein, tous les événements qui font vivre localement la thématique LGBT dans la ville, les manifestations ou tout simplement de prévoir des événements sur le local comme de l'accueil des auteurs ou des choses comme ça.
Alors justement, tu parles du local, arrêtons-nous deux secondes si tu le veux bien. Vous avez des locaux propres que vous financez, mis à disposition par la ville, comment est-ce que ça se passe exactement politiquement aussi à Reims?
Alors, nous avons une subvention de fonctionnement qui nous permet de payer...
Vous aussi?
Partiellement. Notre loyer, hein, qui est une convention de mise à disposition par le Grand Reims.
D'accord.
Okay. Donc on a très très beaux locaux, on a plus d'une centaine de mètres carrés, dans lesquels on a un grand espace d'accueil et on a une pièce séparée qui nous sert de bibliothèque, mais aussi de lieu plus discret pour faire des accueils individuels.
Bien sûr.
Voilà, c'est ça. pour les soirées, enfin les temps de dépistage avec nos amis du CJ, de AIDS, qui viennent au local pour des séances prévention.
Alors, on peut peut-être expliquer, Samuel, qu'on plaisantait à propos du financement et des subventions de financement, puisque ex aequo comme Quasar font partie des associations qui ont reçu, au tout moins, l'annonce d'une enveloppe et d'un montant de subvention pour le fonctionnement, qui est un financement dit exceptionnel. On verra dans l'avenir. Vous avez déjà touché la somme, vous, ou pas encore ?
Oui.
Vous avez de la chance. Pas nous.
Oui, moi je l'ai su. On l'a reçu. D'accord. Une semaine, 10 jours, oui.
Très bien.
On est une préfecture assez réactive, en fait.
Voilà. Bon, eh bien, moi je ne dis rien à ce sujet. J'attends. Nous verrons. Bon, mais on n'est pas
les. Pas une Arlésienne, puisque certains copains l'ont.
Oui,
ont
oui,
bien
tout,
reçu.
Tout à fait. Oui, oui. Et puis, tout le monde en a effectivement eu une somme à montant. Ça va des Basco là-bas, dans le Pays Basque, à Marseille et à d'autres lieux. Enfin, voilà. Donc, tout est bien. Concernant les thématiques orientation sexuelle, donc les critères, vous, c'est comme beaucoup, je suppose, orientation sexuelle, identité de genre, état de santé. Concernant l'identité de genre, vous avez, vous aussi, constaté une explosion à la fin du premier confinement en mai-juin 2020 dernier.
Par rapport aux personnes en questionnement ?
Oui, comme avant, en comparant avec avant les confinements.
Alors c'est très très difficile de te répondre là-dessus parce que nous on avait la question, on avait un groupe trans précédemment sur ex aequo qui prenait de l'ampleur d'une manière assez importante avant le confinement. Et c'est le seul groupe qui a véritablement fonctionné durant le confinement, en fait.
D'accord. Qui a poursuivi ses activités.
Oui. D'accord. Ouais, qui a poursuivi ses activités, et c'est pour ce groupe-là notamment, parce que c'est là où on avait des grosses demandes, qu'on a fait beaucoup de dérogations.
Oui, vous aussi.
Certificats de dérogation pour pouvoir se rendre local.
Il y avait deux populations, c'était effectivement le groupe Team Trans et le pôle droit des étrangers chez nous, donc pour les demandeurs et demandeuses d'asile, oui, et réfugiés. Je vois bien. Pour terminer, dans la minute qui nous reste, on va se dire combien d'adhérents approximativement, et puis vos projets, vite fait, bien fait.
Allez, vite fait. Donc nous, on est à 130 adhérents environ, et puis donc les projets, bah, comme tous les ans, on a notre festival LGBT, hein, qui dure depuis plus de 20 ans maintenant.
Allez, dis le nom.
Lesbies, Queers, Rose.
Voilà, parce que je n'osais pas, j'étais sûr que j'allais me planter, je l'aurais mal prononcé.
Ouais, c'est un jeu de mots, donc c'est un peu acrobatique de le prononcer, je l'avoue.
Et on prend des risques inconsidérés, donc c'était à toi de les prendre, pas à moi. Très bien.
Pas de soucis, j'assume. Donc voilà, donc notre festival, la marche des fiertés, et puis on espère, là, début d'année, pouvoir accueillir notre premier salarié.
Oui, justement, hein, c'était lié effectivement à la question de la subvention de fonctionnement. Merci beaucoup, c'était Samuel Tarsi, président d'ex aequo, le centre LGBT+ de Reims. Très bonne soirée, ciao.
Merci, bonne soirée, au revoir, à bientôt.
Radio G, 101.5 FM.
Bon, allez, avant de refermer les pages de ce numéro, on regarde notre agenda, très rapidement les principales dates, les permanences, tous les samedis de 17h à 19h dans les locaux de Quasar. Vous avez noté 15 rue de Jérusalem, entre la rue des Banchets et le boulevard des Deux-Croix, ou en parallèle, si vous préférez, de l'avenue Pasteur. Allez, vous notez, lundi 12, très important, lundi prochain, Réunion Pride, la troisième du nom, choix du mot d'ordre pour la marche du 13 mai 2023 prochain. Le jeudi 15, c'est la formation interne sur les questions de transidentité qui vous est offerte par la Team Trans Inter. Et puis le samedi 17 à 15h, c'est Transat, le groupe non mixte de paroles et d'échanges entre personnes concernées, transgenres, agenres, non-binaires et intersexes. Et ce même samedi 17 à 15h aussi, c'est l'autre permanence des 15-25. Vous voulez rencontrer des copains, des copines, vous venez venez. Vous notez que nous nous retrouvons dans 15 jours, le jeudi 22 pour un nouveau numéro de Quasar on the Air, et puis lundi 26, réunion du conseil d'administration qu'on appelle le conseil. Et puis sur vos tablettes, vous notez une formation spécifique à l'accueil des personnes neuroatypiques, la compréhension de leurs réactions, de ce à quoi il faut faire attention lorsqu'on les reçoit. Eh bien, vous notez bien, donc le vendredi 27 janvier mai 2023. Allez, on referme cette heure de Quasar on the Air. On se dit à dans 15 jours. Vous gardez bon pied, bon œil, bon moral. Vous restez vigilant. Vous suivez l'actualité de l'ENIPS avec Eric Maniscalco que nous avons reçu tout à l'heure, avec les réseaux sociaux du collectif Rouge Direct, Julien Pontès, le porte-parole que nous recevions. Et puis, bah, vous pouvez vous intéresser également à l'association Execo de Reims. On vous souhaite une véritable bonne soirée. Vous restez toujours en lien avec Quasar. Quasar.fr. À ciao, bonsoir.